RFI minuit 30 à Paris, 22h30 en temps universel.
Afrique Soir.
Afrique Soir avec Zéphirin Quadio, bonsoir.
Bonsoir Christophe Paget, bonsoir à toutes et à tous. En Côte d'Ivoire, l'opposant Tidiane Thiam écarté de la course à la présidentielle. Le chef du principal parti d'opposition a été radié ce mardi de la liste électorale, raison invoquée par la justice. Il n'était plus ivoirien au moment de son inscription sur la liste. Une découverte macabre dans l'ouest du Mali. Plusieurs dizaines de corps retrouvés près d'un camp militaire par des personnes à la recherche de leurs proches arrêtés par l'armée le 12 avril dernier dans la région. Retour sur les faits dans ce journal. Nous irons ensuite au Ghana pour le début ce mardi des célébrations du 50e anniversaire de la CEDEAO. Le jubilé d'or de l'organisation régionale sera marqué par une série d'événements tout au long de l'année dans l'ensemble des pays membres. À retenir enfin, notre dossier consacré aujourd'hui à l'héritage intellectuel d'une grande figure des études africaines, le philosophe et auteur congolais Valentin Yves Moudimbe, décédé la nuit dernière aux États-Unis où il vivait. En Côte d'Ivoire, ce mardi, le tribunal de première instance d'Abidjan a donc radié le candidat du principal parti d'opposition de la liste électorale. Une décision qui, pour l'heure, ferme la porte à la candidature de Tidiane Thiam à la présidentielle du 25 octobre prochain. L'opposant dénonce un déni de justice. À Abidjan, les explications de Binta Diagne.
Tout est parti d'une réclamation portée par un citoyen qui estime que Tidiane Thiam n'était pas ivoirien au moment de son inscription sur la liste électorale en 2022. Dégoûté par la commission électorale indépendante, ce citoyen s'est tourné vers le tribunal de première instance d'Abidjan qui a penché en sa faveur et ordonné la radiation de Tidiane Thiam sur la liste électorale. Maître Patrice Gueux se réjouit de cette décision.
Thiam étant sur la liste de façon irrégulière, parce qu'au moins il s'est inscrit, il était français, à partir du moment lui-même, il nous a donné les éléments d'appréciation. Un élément pour prouver qu'il est français, un deuxième pour prouver qu'il n'est plus français. On se demande, mais quand il s'inscrivait, le jour, la minute, à l'instant T où il s'inscrivait là, quelle était sa nationalité?
La juge s'appuie sur l'article 48 du Code de la nationalité qui stipule qu'un Ivoirien majeur perd la nationalité ivoirienne au bout de 15 ans s'il acquiert volontairement une autre nationalité. Les avocats de Tidiane Thiam ont tenté de prouver que leur client est né français et donc que cette disposition du Code de la nationalité ne s'applique pas à leur client. Maître Rodrigue Dadjé, avocat de Tidiane Thiam.
J'ai produit le registre d'état civil européen où il a été déclaré en tant qu'enfant français. Donc pour moi, c'est largement suffisant. Mais c'est la position de la présidente et nous la respectons. Mais nous ne la partageons pas.
À ce stade, plus aucun recours n'est possible. Le tribunal doit maintenant notifier la commission électorale indépendante de sa décision, la CEI, qui doit publier la liste électorale définitive le 20 juin prochain. Binta Diagne, Abidjan, RFI.
Au Mali, plusieurs dizaines de corps découverts près du camp militaire de Kouala dans l'ouest du pays. Cette découverte macabre a été faite dans la nuit de lundi à mardi par des personnes à la recherche de leurs proches arrêtés par l'armée le 12 avril dans la même région. Le récit d'Abdoulaye Diko.
Plusieurs sources communautaires et des habitants confirment à RFI cette découverte. Aucune certitude sur le nombre exact de corps est retrouvé, ni sur leur identité. Selon un témoin, il est difficile d'identifier les victimes à cause de l'état de la décomposition avancée des corps. Sur certains d'entre eux, explique ce témoin, il ne reste que la peau et les os quand il ne s'agit pas de simples squelettes. Ce témoin raconte aussi sa frayeur. Il faisait nuit, dit-il, et on est très proche du camp militaire. On a vite fui par peur d'être vu. Depuis plusieurs jours, je suis à la recherche de mon frère et de mon cousin arrêté par l'armée et Wagner à Sibabougou, raconte un autre témoin. J'ai peur qu'il soit parmi les corps, s'inquiète-t-il. Cette découverte intensifie l'angoisse des proches de la soixantaine de personnes arrêtées samedi 12 avril 2025 à Sibabougou par l'armée malienne et le groupe Wagner. Elles ont été amenées vers une destination inconnue et depuis, leurs proches n'ont plus eu aucune information sur leur sort. Les FAMA n'ont pas communiqué ni sur ces arrestations, ni sur la découverte de ces corps.
Un récit signé Abdoulaye Diko. Dans un peu plus d'un mois, la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest fêtera ses 50 ans. L'anniversaire de l'organisation régionale créée le 28 mai 1975 sera notamment marqué par une série d'événements tout au long de l'année dans l'ensemble des pays membres. Un événement auquel ont été officiellement conviés les membres de l'Alliance des États du Sahel, une invitation à laquelle les dirigeants du Mali, du Burkina Faso et du Niger n'ont pas souhaité répondre. Correspondance à Accra, Victor Cariou.
Le Ghana se tient prêt à servir de pont pour relancer la fabrique de l'unité ouest-africaine.
Le message du président du Ghana, John Dramani Mahama, est clair. La communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest doit tendre la main vers l'alliance des États du Sahel. Ce, alors que ni le Burkina Faso, le Mali et le Niger n'ont répondu à l'invitation formulée officiellement par le chef d'État. Un refus, selon une source proche de la présidence, pour des raisons de délai trop courts et d'agenda trop chargé. Qu'importe, pour le dirigeant ghanéen, seule la diplomatie peut réellement fonctionner.
Leur récente décision de quitter la CEDEAO est une évolution regrettable. Cependant, nous ne devons pas répondre en nous isolant ou en les récriminant, mais avec un dialogue compréhensif et la volonté d'écouter.
Un changement de cap nécessaire, estime Omar Touré, président de la commission de la CEDEAO, notamment pour combattre le terrorisme.
La menace terroriste ne connaît pas de frontières. Cela rend donc la collaboration sécuritaire impérative au sein de la région. C'est pour cela que je salue les efforts œuvrant à la réconciliation entre la CEDEAO et l'Alliance des États du Sahel.
Le futur des relations avec l'AES est également au programme d'une réunion extraordinaire du Conseil des ministres de la CEDEAO. Celle-ci doit s'achever ce mercredi 23 avril. Victor Cariou, Accra, RFI.
Et j'ajoute que la cérémonie a également été marquée par une autre annonce du président ghanéen. Le pays offrira un millier de bourses aux étudiants de toute la CEDEAO pour venir étudier dans les universités du Ghana. Notez par ailleurs que le chef de l'État ghanéen a annoncé ce mardi la suspension de la présidente de la Cour suprême. La suspension de la plus haute magistrate du pays intervient après que 3 pétitions distinctes ont demandé sa révocation sur la base d'allégations de falsification de dossiers judiciaires et d'utilisation abusive de fonds publics. Un match de football tourne au drame à Tripoli, la capitale libyenne. Lundi soir, un policier a foncé sur des supporters avec son véhicule à la sortie du stade. Bilan, plusieurs blessés, dont certains très gravement. L'acte a été filmé par certains supporters. Le récit d'Ouda Ibrahim.
La vidéo, qui a été regardée des milliers de fois sur les réseaux sociaux, montre clairement la voiture de police foncer sur des gens sans avertissement préalable. Son allure est folle, pareil pour les 2 autres voitures qui la suivent et qui ont causé également des blessés. Sur la vidéo, on voit plusieurs personnes à terre, on entend des cris de stupéfaction. Parmi les supporters présents, aucun n'a compris le geste de la police, surtout après la fin du match qui s'était bien passé sans aucune violence. Durant la nuit du lundi à mardi, plusieurs voitures de police ont été détruites en signe de protestation et de colère. Le ministère de l'Intérieur a réagi dans un communiqué indiquant qu'il s'agit d'un acte isolé en contradiction avec l'éthique. Le communiqué du ministère affirme qu'une enquête urgente allait être ouverte. Plusieurs fois se sont élevés pour réclamer la démission du ministre de l'Intérieur. Des ONG libyennes demandent à ouvrir une enquête rapide et transparente et à mettre fin à l'impunité des auteurs de crimes quand ils font partie de l'État. La police à l'ouest libyen est composée d'anciens miliciens qui parfois continuent à agir en tant que tels.
Ouda Ibrahim. Et puis en bref, l'opposition sud-soudanaise a accusé ce mardi les forces gouvernementales d'attaques à proximité d'un cantonnement militaire dans l'état d'Équatoria centrale et appelé les civils à quitter la zone alors qu'un fragile accord de partage du pouvoir continue de s'effriter.
Kinshasa, 105 FM.
L'Est de la République démocratique du Congo, toujours en proie aux conflits armés, une situation qui a d'importantes répercussions sur les civils. Selon la dernière note du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme, la situation des droits humains s'est dégradée dans le pays au mois de février. Des violations concentrées dans les zones de conflit situées dans l'Est du pays. À Kinshasa, les précisions de Pauline Azidi.
L'ONU recense pour ce mois de février plus de 1200 victimes de violations et d'atteintes aux droits humains dans l'ensemble du pays, un nombre en augmentation de 47% par rapport à janvier 2025. Comme pour les périodes antérieures, ce sont dans les provinces en conflit qu'il y a le plus de signalements, le Nord Kivu, l'Ituri, mais aussi le Sud Kivu, où le nombre de violations a augmenté de 158% en tout juste un mois. Le BCNUDH qui alerte particulièrement sur la flambée des violences basées sur le genre, plus 152%, même inquiétude concernant les violations affectant les enfants, plus 137% par rapport au mois de janvier. Là encore, c'est dans les zones de guerre que l'on retrouve le plus de cas. Mais la situation s'est aussi dégradée dans les provinces qui ne sont pas en conflit. Près de 45 violations et atteintes aux droits de l'homme enregistrées par les Nations Unies, soit une augmentation de 28% dans le reste de la RDC. Pour le bureau conjoint, cette donnée reflète, je cite, « l'augmentation des arrestations et détentions arbitraires contraire dans les provinces du Haut-Katanga et de Kinshasa, dans le contexte de l'expansion du M23. Pauline Azidi, Kinshasa, RFI.
Les forces armées ougandaises ont dit que leur chef a rencontré ce mardi près de Kampala, la capitale, des dirigeants de la CODECO, une milice communautaire du nord-est de la RDC contre laquelle l'armée ougandaise a lancé des opérations début mars. Discret dans le conflit qui secoue l'est de la RDC, l'Ouganda y est militairement présent depuis des années et joue sur le territoire de son voisin un jeu à multiples bandes selon les analystes. Notez par ailleurs que des troupes ougandaises épaule depuis fin 2021 les forces armées de la RDC en Ituri face aux forces démocratiques alliées des rebelles d'origine ougandaise responsables de massacres. Le concert Solidarité Congo a bien eu lieu ce mardi soir à l'Accor Arena à Paris. Cet événement caritatif qui réunit certaines des plus grosses figures du rap français et vise à lever des fonds en soutien aux enfants victimes du conflit dans l'Est de la RDC devait initialement avoir lieu le 7 avril. Il a dû être repoussé car cette date qui marque chaque année le début des commémorations du génocide des Tutsis faisait polémique. Le concert a donc finalement bien eu lieu ce soir. Elisa Fabian était sur place pour RFI.
11 000 spectateurs sur les gradins et dans la fosse de l'Accor Arena et une trentaine d'artistes attendus sur scène pour lever des fonds pour les enfants de l'Est de la RDC. Plusieurs organisations sont aussi présentes ce soir. Certains de leurs membres étaient mobilisés avant ce concert pour distribuer des drapeaux que les spectateurs agitent maintenant à bout de bras. Paul Wemo-Ekossa, le président de l'association congolaise d'aide aux victimes des massacres, participait à cette action de sensibilisation.
Ce n'est pas seulement les concerts. Les concerts, on va voir Maître Gims, on va voir tous nos stars qu'on aime beaucoup, mais l'objectif c'est de sensibiliser le peuple à comprendre que nous devons tous nous lever pour dénoncer ce qui se passe en République démocratique du Congo qui dure, parce que vraiment le problème du Congo dure.
Beaucoup de jeunes dans le public pour la musique bien sûr, avec des artistes comme les stars Youssoupha, Gims ou Fally et Poupa en tête d'affiche, mais l'action caritative compte aussi aux yeux de Samuel, 22 ans, jeune français d'origine congolaise.
Je suis originaire d'un pays qui subit l'oppression de ses voisins depuis un peu plus de 20 ans. Mes parents m'ont toujours fait grandir en me disant tout ce qui se passe au pays. Chaque année, je vais en RDC depuis que je suis né. C'est aussi important de pouvoir prouver qu'on est congolais, pas que pour l'ambiance, la musique, danser, mais aussi pour les moments sérieux et montrer qu'on est de cœur avec nos frères et sœurs qui se trouvent à l'est de la RDC.
Les organisateurs de ce concert Solidarité Congo ont annoncé un show à guichet fermé dont les recettes seront reversées à l'association Give Back Charity du chanteur Dadju. C'est cette organisation qui doit assurer leur redistribution sur le terrain.
Un reportage signé Lisa Fabian. On a appris ce mardi matin, la mort de l'auteur et philosophe congolais Valentin Yves Moudimbe. Il est décédé la nuit dernière à l'âge de 83 ans en Californie du Nord, aux États-Unis, où il vivait. Originaire de la province du Haut-Katanga, Valentin Yves Moudimbe était considéré comme l'un des intellectuels et philosophes africains de premier plan. Le reste, c'est Alexandra Brangeon qui raconte.
Auteur de romans, de recueils de poésie, de mémoires, c'est surtout ses essais théoriques sur l'Afrique qui vont faire de Valentin Yves Moudimbe une grande figure du monde littéraire et linguistique. Né le 8 décembre 1941 à Likasi dans la province du Haut-Katanga, il reçoit une éducation religieuse chez les moines bénédictins où il fait son noviciat. À 21 ans, il renonce à cette vie et poursuit ses études de philosophie à Louvain, en Belgique. Enseignant à l'université de Lubumbashi, il devient très actif dans les revues publiées alors au Congo. Fin des années 70, il quitte le Zaïre de Mobutu pour un long exil qui le conduit en Europe puis aux États-Unis où il enseigne notamment à l'université de Stanford. Auteur d'une quarantaine d'essais, il déconstruit le regard de l'Occident sur l'Afrique, l'image du continent façonnée par le discours des explorateurs, anthropologues et missionnaires, et s'attelle à constituer une bibliothèque africaine. Un savoir africain sur l'Afrique. L'un de ses ouvrages phares, L'invention de l'Afrique, paru il y a plus de 30 ans en anglais, devenu un incontournable des études africaines dans les universités américaines, a été traduit en français l'année dernière.
Alors quel est l'héritage que laisse cette illustre figure des études africaines? Élément de réponse de Boniface Mangombusa, critique littéraire congolais, joint par Alexandra Brangeon.
Ce que je retiens de lui, c'est d'abord la quête de la liberté toute sa vie, y compris dans sa vie de citoyen et sa vie d'intellectuel. Il était animé par cette quête de liberté. Et il ne faut pas oublier qu'il était d'abord ordonné prêtre. C'est un prêtre défroqué, donc qui a quitté les ordres, qui ensuite est devenu enseignant. Et quand Mobutu a voulu l'embrigader pour en faire de lui membre du comité central du MPR, qui était le parti unique du pays, il a décliné poliment et puis il est allé aux États-Unis. Il a fait la carrière mondiale, puisqu'il a publié un livre mondialement connu, « L'invention de l'Afrique ». Donc voilà, ce qu'on peut retenir de Modibé, c'était la quête de la liberté individuelle, mais en même temps, c'est la quête de liberté du continent. Et toute sa vie, il a montré qu'on ne peut pas penser, écrire, si on n'est pas libre.
D'où un des thèmes récurrents de ses œuvres, qui est de repenser l'Afrique.
Ben déjà, il parle d'une idée que l'Afrique contemporaine, en tout cas intellectuelle, que telle que vous et moi comprenons, est une construction de ce qu'il appelle la bibliothèque coloniale. C'est-à-dire tous les travaux, tous les livres écrits par des voyageurs, des savants, des militaires, des ethnologues qui ont séjourné en Afrique pendant la période coloniale, ont donné une certaine image de l'Afrique. C'est ce qu'il appelle l'invention de l'Afrique. Et donc, le travail du chercheur, de l'écrivain africain, va consister à déconstruire justement cette image d'Épinal. Donc, ça veut dire reconstruire une autre bibliothèque par opposition à la bibliothèque coloniale.
Est-ce qu'il était précurseur dans son travail ?
Oui, mais ce discours-là existait déjà en Amérique latine. Du côté de l'Afrique, ça peut paraître nouveau, mais c'est un discours que l'on entendait déjà du côté des intellectuels de l'Amérique latine. Par exemple, quand l'Occident parle de la découverte de l'Amérique, les intellectuels latino-américains opposent la conquête de l'Amérique. C'est pas la même chose. Et Modibé, et en fin de compte, il applique ça aussi un peu en Afrique, quelque part. Que l'Afrique que nous connaissons à travers les images, les photos, les discours des voyageurs, c'est une invention, c'est une construction de sauvages. Et donc, lui, par opposition, il oppose justement une autre bibliothèque, d'où l'invention de l'Afrique. C'est l'Afrique que nous croyons connaître, c'est une Afrique inventée à partir de la bibliothèque coloniale. C'est ça ce qu'il appelait la bibliothèque coloniale. Donc voilà, de ce point de vue, oui, par rapport à l'Afrique, il était en avance, puisqu'il a inviter tous les chercheurs à déconstruire l'image de l'Afrique telle qu'elle existe.
Boniface Mangoumbousa, critique littéraire congolais, interrogé par Alexandra Brangeon pour ce dossier consacré au décès de Valentin Yves Mundimbe, philosophe africain de premier plan. Durant cette journée de la Terre, on fait un focus sur des solutions africaines face aux défis environnementaux. Parmi les lauréats du prix EarthNA, remis aujourd'hui par la Fondation du Qatar pour encourager les projets environnementaux qui s'appuient sur les savoirs traditionnels, deux Africains, le Kenyan Elisha Kaleb a été récompensé pour l'initiative Seeds of Change de Blooming World International au Kenya, et le Camerounais Farmer Tanto a lui été primé pour son initiative de conservation de l'eau avec des pratiques comme la récupération des eaux de pluie. Sujet signé Juliette Pietraszewski.
C'est un prix qui réjouit Farmer Tanto et sa fondation du même nom. Ce militant camerounais a jusqu'ici permis à 250 personnes d'avoir accès à l'eau grâce à des pratiques de gestion durable. Il s'agit de récupérer des eaux de pluie ou encore protéger des zones de captage, des dispositifs de prélèvement d'eau potable à partir de sources naturelles sorties de terre ou de cours d'eau, par exemple.
Mon initiative vise à rendre les communautés locales capables de préserver les zones de captage d'eau en y plantant des arbres et des graminées qui restaurent ces captages d'eau. Une fois cette opération terminée, nous exploitons les sources, construisons des réservoirs d'eau, puis prenons l'eau par gravité et construisons des robinets sur pied afin que les communautés puissent avoir accès à l'eau potable.
Désormais récompensé par le prix EarthNA, Farmer Tanto espère attirer l'attention sur l'un des enjeux les plus importants de ce 21e siècle.
Environ 2 milliards de personnes dans le monde n'ont pas accès à l'eau potable et à l'assainissement. Cela devrait être un droit humain universel pour que personne ne soit laissé pour compte. Nous devons donner aux communautés les moyens de préserver elles-mêmes ces ressources en eau. Si on ne le fait pas, une guerre de l'eau s'abattra sur cette planète.
Avec $1 million américains, le prix EarthNA permettra aux 4 lauréats, comprenant Farmer Tanto, de poursuivre le développement de leurs initiatives.
Sujet signé Juliette Pietraszewski. À présent, retour sur le salon de l'investissement dans l'immobilier et les énergies renouvelables en Afrique. L'événement s'est déroulé mi-avril à Paris, l'occasion de faire le point sur les forces et les faiblesses des investissements de la diaspora, notamment dans l'immobilier, un secteur qui draine une part importante des fonds injectés par la diaspora dans l'économie du continent. Afrique Économie, un dossier signé Léonard Joachim.
Elhaj Sekouy Fanon souhaite acheter un terrain dans son pays d'origine, la Guinée. Le trentenaire est responsable commercial dans une société de transport maritime au Havre. Il a besoin d'être rassuré par les acteurs de la filière car il a des doutes.
Est-ce qu'aujourd'hui les promoteurs immobiliers à destination, est-ce qu'ils ont des outils ou une plateforme en tout cas qui mettrait en lumière et en transparent justement un point sur la communication pour avoir une vision claire entre l'investissement et le projet qu'on réalise sur place.
Autre zone d'ombre pour l'âge, le financement.
Au niveau des notaires, est-ce qu'il y a des investissements qui seront levés de leur côté? Est-ce qu'ils sont en partenariat avec quelques banques?
L'éloignement et le difficile accès au crédit freinent les investissements de la diaspora dans l'immobilier. Les acquisitions immobilières représentaient moins de 5% des transferts d'argent de la diaspora guinéenne il y a quelques années, selon la Banque centrale de la République de Guinée.
Souvenez-vous, il y a un vieil adage qui dit acheter un terrain, c'est quelquefois acheter un procès.
Alou Boigné-Nobel est magistrat en Côte d'Ivoire et spécialiste du droit foncier et immobilier. Il est venu au salon présenter son livre « Acheter un terrain en Côte d'Ivoire en toute sécurité ».
On a ça et là des affaires dans lesquelles des personnes estiment avoir perdu beaucoup d'argent. Beaucoup d'investisseurs ou d'acheteurs achètent des terrains dans des lotissements qui ne sont pas approuvés.
En Afrique de l'Ouest, le secteur immobilier grandit, mais moins vite que la demande. En Côte d'Ivoire, il manquerait plus de 800 000 logements. En Guinée, c'est plus de 500 000. Pour combler ce manque, les États changent les règles, comme l'explique Samuel Lequertier, promoteur immobilier en Guinée.
On a un cadre légal aujourd'hui qui a été mis en place à travers la nouvelle constitution à l'époque et qui n'était pas exploité, qui n'était pas développé, qui a mis en fait en place tous les principes de copropriété et donc de pouvoir construire de façon verticale et non pas horizontale et donc de pouvoir après morceler des immeubles sous forme d'appartements. Et donc c'est pour ça que des acteurs, des promoteurs immobiliers comme nous aujourd'hui pouvons nous appuyer sur ce cadre légal pour développer nos programmes de développement foncier.
Promoteurs, banquiers, constructeurs, tous les exposants se veulent enthousiastes et rassurants. Mais l'optimisme ambiant n'efface pas un doute persistant chez de nombreux visiteurs, l'instabilité politique de la région qui empêche les investisseurs de se projeter.
Un dossier signé Léonard Joachim.
Afroclub, le hit des platines. DJ Facemaker.
Et comme promis, l'ambianceur d'Afrique Soir nous rejoint pour honorer son rendez-vous du mardi sur RFI. Bonsoir Hervé Mondina, alias DJ Facemaker.
Et bonsoir aux tentants de l'info africaine, Zéphirin Kouadio.
Toujours aussi taquin, mon cher Hervé. Allez, vous nous proposez un western à l'africaine pour ouvrir votre sélection avec le collectif de producteurs et compositeurs Lagos in Paris.
Et c'est même le nouveau western pour emprunter l'expression à MC Solar. Lagos in Paris s'innove avec son afro-électro contemporain. Les membres du groupe très secret sont tous basés à Paris mais originaires d'Afrique de l'Ouest. Ils pourraient presque se cacher derrière un casque comme les Daft Punk ou encore le tchadien Afrotronix. En tout cas, Lagos in Paris, c'est un projet ambitieux défendu par le titre Afro G Western sur lequel le musicien ghanéen Stevo Atambiré et l'artiste Tsie apportent leur touche. Je vous invite particulièrement à faire un tour sur RFI.fr et à regarder le clip de Afro G Western qu'on écoute.
Allez, on quitte le Far West de Lagos in Paris pour rejoindre la ville romantique de Luanda en Angola avec le duo Sef Tanzi et Perola.
En effet, deux artistes emblématiques de la scène angolaise, Carlos Fernando Tanzi, alias Sef Tanzi, l'architecte de la trappe Zouk, allait savoir de quoi il s'agit, de retour en duo avec Perola, la voix féminine de la Kizomba en Angola. Tous les deux se retrouvent sur le titre Lay 14, oui ça se dit comme ça en portugais, qui est le premier titre inédit de Sef Tanzi après le succès de l'album Bairro Star, paru l'an dernier. Vous l'avez dit, Lay 14 est une chanson romantique, harmonieuse, qui a très vite trouvé son audience, et depuis sa sortie, elle ne cesse de progresser. 3 minutes et 15 secondes de douceur auditive.
Tava cheio de boas intenções.
E eu com as mágoas das más experiências. Tava nem das tuas intenções.
E eu te disse que tua mãe adora ser a minha única sogra. A forma como eu vou te mimar vai te dizer, filha, casar.
E convincente o teu charme desbloqueia o meu coração. Até esqueci.
Et de la Kizomba à la Rumba, il n'y a qu'une seule frontière, Hervé, et celle de l'Angola et de la RDC que nous traversons pour rejoindre le rappeur congolais Heidi Pizzel et la légende Lokwa Kanza.
Heidi Pizzel qui est reconnu pour être le créateur de la Rumba Drill, cette fusion de musique congolaise et de rap britannique. Il s'est fait remarquer en 2020 avec sa chanson phare Billie Jean et il s'est forgé depuis une identité artistique distincte. La légende Lokwa Kanza a répondu à l'appel de Heidi Pizzel pour composer une nouvelle version de sa chanson Yika, qui est donc le fruit d'une collaboration intergénérationnelle et surtout une combinaison audacieuse des univers des deux artistes.
My brother, I'm not happy. Many, many days I don't see my babies. Cause all of my body is a passi, yeah, yeah. Mi kumbe pele na sima. Ata oleli, nanya kosunga yo. La vida no mete en comba. Ifo bunda, vamo kile indi ma yo. Yango na tika nyo.
Et après ce duo d'Afrique centrale, Hervé, on met le cap sur Saint-Louis au Sénégal pour conclure cette sélection certifiée Afroclub avec le chanteur Cheikh Ibra Fam.
Oui, l'artiste originaire de Mbour, au parcours musical riche et engagé, c'est seulement en 2022 qu'il s'est lancé dans une carrière solo après avoir longtemps tourné au sein du légendaire Orchestra Baobab. Influencé par la soul, le reggae et les musiques traditionnelles sénégalaises, Cheikh Ibra Fam a dévoilé le titre Ram Ram, qui signifie connaissance en Wolof, sous le label Kumbancha. Il s'agit du premier single de son prochain album Aduna, dont la sortie est prévue pour le mois d'octobre prochain. Cheikh Ibra Fam a puisé dans ses souvenirs d'enfance pour écrire ce morceau dont le clip a été tourné dans la belle ville de Saint-Louis, au nord du Sénégal.
Nyakodara ham kham mom kuko amul amodara sama dom jangil sama gibe sadara sama dom jangil sama gibe sadara.
Voilà, c'est donc au Sénégal que s'achève cette édition d'Afrique Soir réalisée par Raphaël Azizi. Rédaction en chef Sabine Mellet, assistée de Simon Buil-Baudin. L'info continue sur Radio France Internationale avec à suivre dans un peu plus d'une minute maintenant un nouveau journal.
L'information continue sur la chaîne WhatsApp de RFI.
Chaque jour, vous pouvez retrouver directement sur votre téléphone les principaux titres de l'actualité internationale et les analyses de RFI, ainsi qu'une sélection de nos émissions. Pour nous suivre, c'est simple. Allez sur l'onglet « Actu » de votre application, abonnez-vous à notre chaîne et rejoignez la communauté WhatsApp de RFI.
RFI sur WhatsApp. L'actualité autrement, l'information quand vous voulez. Demain, sur RFI, sur le Pont des Arts, Nathalie Amar.
En 15 ans de conservatoire, elle n'a jamais interprété l'œuvre d'une femme. Et c'est ce qui l'a convaincue d'écrire une histoire féministe de la musique du Moyen-Âge au 21e siècle. Le livre s'intitule « Ni muse, ni groupie ». Chloé Thibault, qui l'a écrit, sera notre invitée.
Sur le Pont des Arts, avec Nathalie Amar. Du lundi au vendredi à 15h10 TU, sur RFI.